Chapitre 11. Mon minuteur me hurle au visage. Je m'étais laissé 2 heures. Les 2 heures sont passées. Je cligne 2 fois des paupières. Je flotte en position fœtale dans la salle de contrôle. Je n'avais même pas atteint le dortoir. Je ne suis pas reposé du tout. Tous les pores de mon être me hurlent de retourner dormir, mais j'ai promis à Rocky d'être de retour dans 2 heures, et je ne voudrais surtout pas qu'il perde confiance dans l'humanité. L'homme n'est pas digne de confiance, mais il n'est pas obligé de le savoir. Je traverse péniblement le sas. Peut-on évoluer péniblement en apesanteur? J'affirme que oui. Rocky est bien là, qui m'attend. Pendant mon absence, il n'a pas chômé. Il y a plein d'objets autour de lui. L'horloge éridienne est toujours là, mais soigneusement fixée à une poutrelle de la structure. Plus intéressant, je remarque la boîte qui semble avoir été ajoutée à la paroi transparente. C'est un cube d'environ 30 cm d'arête dont la moitié dépasse de mon côté du tunnel. Il est constitué de la même xénonite transparente que le reste du mur. Du côté de Rocky, la boîte est dotée d'une trappe transparente, ceinte d'un carré de xénonite opaque. Je remarque également un trou carré auquel est fixé un conduit qui disparaît au loin. Sur le conduit, il y a... des commandes? Des boutons, peut-être? Un câble sort de cette portion du tuyau et serpente, comme celui-ci, jusqu'au vaisseau. De mon côté, le cube est équipé d'une manivelle comparable à celle de mon sas. Elle est montée sur un panneau apparemment amovible. « C'est un sas ? » m'écriai-je. « Vous avez fabriqué un sas dans notre tunnel commun ?» C'est génial. Tout simplement génial. Rocky et moi y avons accès tous les deux. L'extraterrestre est en mesure de contrôler la nature de l'air dans le cube grâce à ce tuyau mystère et à quelques pompes situées dans le spot A. Il commande tout ce dispositif par les boutons repérés plus tôt. Ainsi, nous avons la possibilité d'échanger des objets. J'agite les mains à sa manière si caractéristique. Il me répond. Des panneaux plats et carrés, encore. Quelle idée de faire un sas carré, surtout avec la pression atmosphérique éridienne. Même le conduit qui mène au vaisseau est carré. Je sais qu'ils sont capables de produire de la xénonite ronde, comme les cylindres qu'il m'a donnés au début de notre relation, comme ce tunnel. Je réfléchis trop, peut-être. La xénonite est tellement résistante qu'il n'est pas nécessaire de prévoir la forme des contenants pressurisés. Les panneaux plats sont sûrement plus faciles à produire. C'est formidable. Je lève le doigt, il m'imite. Je flotte jusqu'au laboratoire, où je trouve un maître ruban. Il m'a montré une unité de temps, je vais lui montrer une unité de longueur. Dieu merci, le mètre est divisé en centimètres. Les secondes en base 6 des éridiens sont bien assez compliquées comme cela. Pas question de nous pourrir la vie avec des unités impériales, même si elles me sont familières. De retour dans le tunnel, je brandis mon mètre ruban. Je tire un peu dessus, puis le laisse se rétracter. Je répète le processus plusieurs fois. Rocky agite les mains. Je montre le sas carré. Quelle idée tout de même! Et il agite les mains de plus belle. J'espère qu'il n'y a pas 29 atmosphères d'ammoniac à l'intérieur. Nous verrons bien. Je tourne ma manivelle et je tire sur la trappe qui s'ouvre facilement vers l'extérieur. Rien n'explose. Il n'y a même pas une odeur d'ammoniac. Il n'y avait pas non plus le vide à l'intérieur, sinon je n'aurais même pas réussi à ouvrir la porte. Rocky s'est arrangé pour que la boîte contienne la même atmosphère que ma moitié de tunnel. Sympa de sa part. Je lâche le mètre au milieu du cube où il flotte librement, puis je referme la trappe et tourne la manivelle. Rocky appuie sur un bouton de son boîtier de commande. S'ensuit un bruit d'aspiration étouffée, puis un sifflement régulier. Un gaz dense jaillit du conduit. De l'ammoniac, sans doute. Le maître ruban vole dans tous les sens comme une feuille dans le vent. Bientôt, le sifflement faiblit. Alors, je me rends compte de mon erreur. Le maître ruban est un outil de chantier robuste, métallique, avec des renforts en caoutchouc. Le problème, c'est que les éridiens l'aiment chaud. Chaud comment? Je ne sais pas exactement, mais je sais désormais qu'il l'aime plus chaud que la température de fusion du caoutchouc. Des gouttes de caoutchouc fondu ondulent et se collent à l'outil à cause de la tension de surface. Rocky ouvre sa trappe et saisit mon cadeau empoisonné avec circonspection par ses parties métalliques. Au moins ces parties-là sont-elles toujours solides. Je crois qu'elles sont en aluminium. J'en conclus que l'air méridien n'est pas assez chaud pour fondre de l'aluminium, ce qui est une bonne chose. Comme Rocky manipule le maître ruban, le caoutchouc s'en détache et flotte librement dans le tunnel. Il en touche une goutte qui se colle au bout de son doigt. Il s'en débarrasse facilement. Manifestement, la température ne le dérange pas. Son geste ressemble à celui d'un humain secouant des mains mouillées. Dans mon atmosphère, du caoutchouc fondu serait brûlant et dégagerait des gaz toxiques et malodorants. Toutefois, il n'y a pas d'oxygène dans la moitié de tunnel de Rocky. Le caoutchouc y reste liquide, tout simplement. Il flotte jusqu'à la paroi où il reste collé. J'adresse un haussement d'épaule à Rocky. Peut-être comprendra-t-il que c'est une manière de m'excuser. Il reproduit mon geste, sauf qu'il hausse ses cinq épaules. Le résultat est bizarre, et je ne suis même pas certain qu'il m'ait compris. Il tire un peu sur le ruban et le lâche. Le ruban s'enroule, ce qui semble le surprendre, alors qu'il savait à quoi s'attendre. Il le déroule complètement, puis le laisse s'enrouler en tournoyant devant lui. Il le rattrape et recommence, puis recommence encore, et encore. « Ouais, c'est amusant, » concédai-je. « Mais jetez un coup d'œil aux marques dessus, ce sont des centimètres. Des centimètres !» Comme il déroule de nouveau le ruban, je le lui montre. « Regardez !» Mais il continue de jouer avec l'outil et ne semble pas du tout s'intéresser à ce qui est écrit dessus. « Ah !» m'exclamai-je. Je brandis mon index et file dans le labo chercher un autre maître ruban. C'est un laboratoire richement doté et il n'y a pas de mission spatiale digne de ce nom sans redondance. Puis je retourne dans le tunnel. Rocky est toujours en train de jouer avec le maître. Il a l'air de vraiment s'éclater. Il déroule un mètre de ruban, puis lâche les deux extrémités. Quand il a fini de s'enrouler, l'outil tourbillonne devant l'extraterrestre. Lâche-t-il. Et je suis quasiment certain qu'il s'agit d'un cri de jubilation. Regardez! Rocky! Rocky! Hé! L'extraterrestre cesse de jouer avec ce non-jouet. Je déroule un peu mon mètre et désigne les traits. « Regardez, là, vous voyez ?» Il déroule le sien et s'arrête plus ou moins à la même longueur que moi. Je vois que les marqueurs sont toujours présents sur son outil, qu'ils n'ont pas fondu dans la brûlante atmosphère iridienne. Mais alors où est le problème ?« Regardez !» insistai-je en montrant le trait du premier centimètre. « Cette ligne-là, c'est un centimètre !» Je tapote plusieurs fois sur le ruban pour accentuer mon propos. Il tient le mètre avec deux mains et le tapote avec une troisième. Il reproduit mon tempo, mais il est très loin de la ligne du premier centimètre. « Là !» insistai-je en tapotant plus fort. « Vous êtes aveugle, ma parole !» Je m'interromps. « Attendez, vous êtes aveugle ?» Rocky tapote son mètre de plus belle. J'étais parti du principe qu'il avait des yeux quelque part, que j'étais simplement incapable de les localiser. Et s'il n'en avait pas? Le sas du spot A était plongé dans l'obscurité, et Rocky ne semblait avoir aucune difficulté à s'y mouvoir. Je pensais qu'il voyait des fréquences invisibles pour moi. Le maître ruban est blanc avec des inscriptions noires, qui devraient être visibles sur tous les spectres. Le noir est l'absence de lumière, et le blanc l'addition de toutes les fréquences. Cela n'a aucun sens. Il sait ce que je fais, il reproduit mes gestes. S'il est aveugle, comment fait-il pour lire mon horloge? Et la sienne? Son horloge est pourvue de chiffres épais, 3 bons millimètres. Maintenant que j'y repense, il a eu un peu de mal avec la mienne. Il a eu besoin que je la colle à la paroi transparente. Dès qu'elle dérivait de 2 ou 3 centimètres, cela l'embêtait. Le fait que l'horloge soit tout près de la paroi ne lui suffisait pas. Il la voulait coller contre la paroi. Les sons? Me demandai-je à voix haute. Peut-on voir avec les sons? Cela expliquerait pas mal de choses. Les humains utilisent les ondes électromagnétiques pour comprendre leur environnement tridimensionnel. Pourquoi une espèce différente ne se servirait-elle pas des ondes sonores? Le principe est le même, et il existe aussi sur Terre. Les chauves-souris et les dauphins utilisent l'écholocation pour voir avec les sons. Peut-être les éridiens ont-ils cette faculté, mais décuplée. Au contraire des chauves-souris et des dauphins, ils posséderaient un sonar passif. Ils mettraient à profit les bruits ambiants pour visualiser leur environnement au lieu d'émettre un bruit spécifique pour traquer leur proie. C'est juste une théorie, mais elle semble coller aux données disponibles. C'est la raison pour laquelle les chiffres de son horloge sont épais, parce que son sonar est incapable de percevoir les choses trop fines. Rocky a relevé le défi que je lui ai lancé avec mon horloge parce que ses aiguilles sont des objets solides, au contraire des marques sur le mètre ruban qui ne sont que de l'encre. Sauf que les aiguilles sont enfermées dans un boîtier en plastique, d'où le besoin qu'il avait que l'horloge soit collée contre la paroi, conclus-je en me donnant une claque sur le front. Les ondes sonores devaient rebondir à l'intérieur pour lui faciliter la tâche. « Rocky, je vous ai offert un cadeau inutile puisque vous ne voyez pas l'encre. » L'extraterrestre déroule et laisse le maître ruban s'enrouler une nouvelle fois. Je lève l'index. Il reste concentré sur son jouet, mais me répond distraitement d'une main libre. Je retourne dans mon vaisseau, traverse la salle de contrôle et file dans le labo. J'attrape un tournevis avant de descendre dans le dortoir, où je soulève le panneau en aluminium de la réserve. Il mesure environ 1,5 mm d'épaisseur, et ses contours sont arrondis pour que nous ne nous coupions pas. Costaud, durable et léger. Parfait pour une mission spatiale. Je vole jusqu'au tunnel. Rocky a grossièrement noué l'extrémité du mètre à une poignée et le déroule en se déplaçant le long d'une sorte de rampe, à l'aide de ses 4 membres libres. « Hé !» l'appelai-je en levant la main. « Hé !» demande-t-il en cessant de jouer. Je lève 2 doigts. Rocky lève 2 doigts. « Ouais. D'accord. On est de nouveau en mode mime. Je lève un doigt, puis 2, puis en abaisse 1, avant d'enlever 2 autres. Rocky répète la séquence comme je l'espérais. Je mets le panneau d'aluminium entre Rocky et moi. Derrière le panneau, je lève 2 doigts, puis 1, puis 3, puis 5. Rocky lève 2 doigts, puis 1, puis 3, avant d'en ajouter 2 avec une autre main. Waouh ! 1,5 mm d'aluminium peut arrêter à peu près toute la lumière. À l'exception de fréquences extrêmement élevées, mais ces fréquences-là me traversent moi aussi. Ils ne verraient pas mes mains dans ce cas. Les sons, en revanche, traversent les métaux sans difficulté. C'est une preuve suffisante. Il ne se sert pas de la lumière pour percevoir le monde, mais des sons. Pour Rocky, cette plaque d'aluminium est comme une vitre. Peut-être brouille-t-elle un peu l'image, mais pas beaucoup. Il se peut même qu'il sache exactement à quoi ressemble ma salle de contrôle. Pourquoi pas? La coque est en aluminium. Comment m'a-t-il vu dans l'espace? Il n'y a pas d'air dans l'espace. Donc pas de son? Attendez. Non, c'est une question idiote. Je n'ai pas affaire à un homme des cavernes se promenant dans l'espace, mais à un voyageur spatial accompli. La technologie ne lui est pas étrangère. Il possède certainement des caméras et des radars, des appareils capables de transformer des données en informations assimilables par lui, un peu comme mon pétrovascope. Au contraire de celui-ci, je ne vois pas les IR. La machine les affiche pour moi sur un moniteur en utilisant des fréquences visibles à l'œil nu. La salle de contrôle du spot A est certainement équipée d'incroyables cadrans et affichages en braille. Un braille très avancé et impossible à appréhender pour moi. Waouh ! Lâchai-je en le fixant du regard. Pendant des milliers d'années, les humains ont regardé les étoiles en se demandant ce qu'il y avait là-haut. Vous, vous avez développé le voyage spatial sans avoir jamais vu les étoiles au préalable. Les Éridiens sont vraiment un peuple extraordinaire, de vrais génies scientifiques. Le nœud se défait soudainement, Et le ruban s'enroule en fouettant les doigts de Rocky, qui secoue brièvement sa main endolorie avant de continuer à jouer avec l'artefact. Ouais, j'ai clairement affaire à un scientifique. Levez-vous, je vous prie, lança l'huissier. La session de la Cour fédérale du district ouest de Washington est ouverte. L'honorable juge Meredith Spencer présidera l'assemblée. L'assemblée se leva comme un seul homme, comme la magistrate s'installait. Asseyez-vous, ajouta l'huissier en tendant un dossier à la juge. Votre honneur, l'affaire du jour oppose l'alliance pour la propriété intellectuelle au projet Dernière Chance.
Les plaignants sont-ils prêts?
S'enquit la juge après avoir hoché la tête. Les plaignants étaient un groupe d'hommes et de femmes bien habillés. Le plus âgé, un homme d'une soixantaine d'années, se leva et prit la parole.
Nous sommes prêts, votre honneur.
La défense?
Strat était toute seule à la table de la défense, occupée à pianoter sur sa tablette. La juge se racla la gorge.
La défense est-elle prête?
Insista-t-elle. Strat termina de taper une phrase et se leva.
« Je suis prête. »« Conseillère, où est le reste de votre équipe ?»
demanda la juge en montrant la table d'un geste du bras.
« Il n'y a pas d'équipe, et je ne suis pas conseillère. J'assurerai notre défense toute seule. »«
Madame Strat, » poursuivit Spencer en retirant ses lunettes pour lancer un regard noir à la néerlandaise.
« Dans l'affaire qui nous intéresse, la défense est constituée d'un célèbre consortium gouvernemental de scientifiques. » Dirigé par moi, je suis venu demander un classement sans suite.
Le moment n'est pas venu de demander quoi que ce soit, Madame Strat. Dites-moi simplement si vous êtes prête à continuer.
Je suis prête.
Bien. Mesdames et messieurs les plaignants, vous pouvez commencer.
L'homme se leva.
Mesdames et messieurs les jurés, à votre honneur, je m'appelle Théodore Canton. Et je serai le conseiller de l'Alliance pour la propriété intellectuelle dans cette affaire. Durant ce procès, nous démontrerons que le projet Dernière Chance a outrepassé ses droits en matière d'acquisition de données numériques et d'octroi de licences. Les dirigeants de ce projet ont en leur possession une mémoire informatique géante contenant la totalité des logiciels protégés jamais codés, ainsi que tous les livres et documents imprimés disponibles en format numérique. Tout cela a été compilé sans qu'aucun paiement soit fait, sans qu'aucune autorisation soit demandée aux auteurs et à leurs ayants droit. Par ailleurs, nombre de leurs designs technologiques violent des brevets détenus par...
« Votre honneur, »
l'interrompit Strat.
« Puis-je proposer une motion à présent ?»«
Techniquement, oui, » répondit la juge.
Mais la trad... Dans ce cas, je demande un classement sans suite.
Votre honneur,
protesta Canton.
Sur quelle base, Madame Strat?
Parce que je n'ai pas de temps à perdre avec ces conneries. Nous construisons un vaisseau pour sauver notre espèce, et nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Trois astronautes, pas plus, y conduiront des expériences que nous ne pouvons qu'imaginer pour l'instant. Ils devront être prêts à suivre toutes les pistes possibles. Aussi doivent-ils avoir toutes les cartes en main. La somme cumulée de tous les savoirs humains, ainsi que tous les logiciels, même des choses très bêtes. Les astronautes n'auront sans doute pas besoin de Minesweeper pour Windows 3.1, ni d'un dictionnaire sanskrit anglais. Ils les auront quand même, toutefois.
« Votre honneur !» intervint Canton en secouant la tête.
« Mes clients ne nient pas la noblesse du projet Dernière Chance. » Notre plainte concerne l'usage illégal de publications protégées et de mécanismes brevetés.
Obtenir l'accord de toutes les sociétés concernées demanderait un temps et une énergie précieux. Nous n'allons même pas essayer.
Madame Strat, je vous assure que vous finirez par vous mettre en conformité avec la loi,
gronda la juge Spencer.
Quand j'en aurai envie,
rétorqua Strat en brandissant une feuille de papier.
D'après ce traité international, je jouis d'une immunité totale et absolue sur toute la surface de la planète. Le Sénat des États-Unis a ratifié ce traité il y a 2 mois.
Elle brandit une seconde feuille de papier.
Et pour les situations particulières comme celle-ci, je bénéficie également de la grâce préventive du président des États-Unis d'Amérique pour tout crime dont je pourrais être accusé dans les juridictions de ce pays.
L'huissier saisit les documents et les apporta à la juge.
« Ces documents semblent authentiques, »
avoua Spencer.
« Je ne suis venu que par courtoisie, »
ajouta Strat.
« Je n'étais pas obligé de me déplacer, mais comme toute l'industrie du logiciel, les trolls des brevets et tous les petits soldats de la propriété intellectuelle se sont ligués pour nous attaquer, je me suis dit qu'il valait mieux tuer cette révolte dans l'œuf. »
Elle rangea sa tablette dans son sac.
« Maintenant, je vais vous laisser. »
« Attendez, Madame Strat, » lança Spencer.
« Vous êtes dans une cour de justice, et vous ne partirez pas tant que... »«
Aucune chance, »
l'interrompit Strat.
« Madame, » dit l'huissier en s'avançant, « si vous n'obtempérez pas, je vais devoir vous contraindre physiquement. »
« Avec quelle armée ?»
5 soldats en treillis arrivèrent dans la salle et prirent position derrière Strat.
« Parce que moi, » conclut-elle, « je suis venu avec l'US Army. » La meilleure qui soit.
Je passe en revue les logiciels disponibles en mangeant une tortilla au beurre de cacahuète. Je sais que ce mariage peut sembler douteux, mais c'est délicieux, croyez-moi. J'ai appris à m'accrocher à la chaise du labo avec mes jambes, de façon à ne pas flotter partout lorsque j'utilise l'ordinateur portable. J'ai plusieurs ordinateurs portables, d'ailleurs. J'en ai trouvé 6 dans la réserve. Et ils sont tous connectés au réseau du vaisseau via le Wi-Fi. C'est pratique. En théorie, je devrais avoir accès à tous les logiciels disponibles sur le Dernière Chance. Le problème, c'est de trouver celui dont j'ai besoin. Je ne connais même pas son nom. Par chance, un des ouvrages de ma bibliothèque numérique est un catalogue des applications et logiciels. Très pratique également. Je finis par trouver quelque chose d'intéressant. L'analyseur d'ondes de Timpanum Labs. Il y a plein de programmes d'analyse d'ondes dans ma bibliothèque, mais celui-ci est le mieux noté par un magazine d'informatique daté de 2017. Je l'installe donc sur un de mes ordinateurs. Le logiciel est assez facile à utiliser et possède une pléthore de fonctions. La transformation de Fourier est celle qui m'intéresse le plus. C'est l'outil de base en matière d'analyse d'ondes sonores. Et sans doute le plus important. Il est basé sur des calculs mathématiques assez complexes qui peuvent se résumer ainsi. Si vous passez une onde sonore à la moulinette de Fourier, vous obtenez une liste des notes individuelles qui la constituent. Si je jouais un accord de Do majeur, l'application me dirait que celui-ci est constitué d'un Do, d'un Mi et d'un Sol. C'est incroyablement utile. Fini le temps des mimiques. Le moment est venu d'apprendre l'iridien. Oui, c'est bien une langue. J'en ai décidé ainsi. Il faut dire que je réalise nombre d'expériences inédites pour l'humanité, et qu'il faut bien nommer les choses. Estimez-vous heureux que je ne donne pas mon nom à toutes mes découvertes? J'ouvre Microsoft Excel sur un autre ordinateur portable et colle les 2 navires dos à dos avec du ruban adhésif. Oui. Je pourrais ouvrir les 2 applications sur le même ordinateur, mais je n'ai pas envie de passer constamment de l'une à l'autre. Je traverse le vaisseau en volant et retourne dans le tunnel. Rocky n'est pas là. Rocky ne peut pas rester là à m'attendre à longueur de journée, mais pourquoi ne pas avoir laissé un de ses camarades dans le couloir? Si mes amis étaient toujours avec moi, nous prendrions certainement des tours de garde. Ilyukina camperait probablement ici, et ne sortirait de ce tunnel qu'en cas d'absolue nécessité. Qu'est-ce qui me dit que je n'ai pas déjà eu affaire à différents extraterrestres, qu'il n'y a qu'un seul Rocky? En vérité, j'ignore ce qui permet de distinguer les Iridiens les uns des autres. Peut-être ai-je communiqué avec 6 personnes différentes? C'est une pensée déstabilisante. Non, ce n'est pas possible. Je suis à peu près certain que Rocky est Rocky. Les stries sur sa carapace, les protrusions minérales de ses mains sont uniques. Je me rappelle avoir remarqué une irrégularité sur une de ses mains. Ouais, c'est bien le même gars. Si vous observiez un rocher pendant plusieurs heures et que quelqu'un le remplace par un autre rocher similaire, vous vous en rendriez compte. D'accord, mais où est le reste de l'équipage? Je suis seul parce que mes camarades n'ont pas survécu. Mais les Iridiens ont une meilleure technologie spatiale que nous. Un plus gros vaisseau. Une coque constituée d'un matériau quasi indestructible.
Il y a forcément un équipage quelque part.
Ah, je parie que Rocky est le capitaine.
Il a pris un risque physique en venant parler à un alien effrayant. Les autres sont restés sur le vaisseau. C'est ce que ferait le capitaine Kirk.
Capitaine Rocky, cela sonne bien, je trouve.
Quoi qu'il en soit, j'ai plein de trucs intéressants à faire et je suis impatient.
Hé hey, Rocky !
Hurlai-je.
Venez par ici !
Jetant l'oreille à l'affût du moindre bruit.
Allez, mon pote ! Vos capacités sensorielles sont entièrement tournées vers la perception des sons. Je parie que vous entendriez une épingle tomber à plus d'un kilomètre. Vous savez très bien que je vous appelle. Bougez votre... Enfin, ce qui vous sert de cul. On a à parler tous les deux.
J'attends et j'attends encore, mais Rocky ne montre pas le bout de son nez. Je suis sûr de constituer une priorité pour lui. Il doit donc être en train de faire quelque chose d'extrêmement important. Après tout, il a un vaisseau à gérer, et puis il a probablement besoin de manger et de dormir. Non, il a forcément besoin de manger, les organismes biologiques ayant besoin d'énergie. En revanche, je ne sais pas si les Éridiens dorment. Maintenant que j'y pense, dormir ne serait pas une mauvaise idée. Je n'ai dormi que 2 heures ces 2 derniers jours. L'horloge de Rocky est toujours là, coincée entre une poignée et la paroi transparente. Elle fonctionne normalement. Le fait qu'elle n'ait que 5 chiffres est intéressant. D'après mes calculs, elle devrait revenir à L toutes les 5 heures environ. Peut-être est-ce la durée d'une journée éridienne. Je spéculerai plus tard. Le sommeil est la priorité. Je prépare un tableau Excel qui me permettra de convertir le temps de Rocky dans le mien et vice-versa. Je veux dormir pendant 8 heures. J'entre dans le tableur l'heure affichée par son horloge, ILIV lambda, et je lui demande de me donner l'heure qu'il sera dans 8 de mes heures. La réponse est I lambda plus, à renverser, lambda. Je fonce dans le labo, où je prends quelques bâtonnets en bois et du ruban adhésif. Rocky étant incapable de voir l'encre, je vais improviser. Je colle les bâtonnets sur la paroi pour informer Rocky de l'heure de mon retour. I lambda plus, à renverser, lambda. Heureusement, les symboles sont principalement faits de lignes droites. Aussi mes bâtonnets me permettent-ils d'obtenir un résultat convenable et, je l'espère, lisible. Je note que l'heure de mon retour comporte 6 symboles, alors que l'horloge de Rocky n'est capable d'en afficher que 5. Mais il comprendra, j'en suis sûr. Si Rocky me disait « Je serai de retour à 37 heures », je comprendrais. Avant d'aller pioncer, je démonte une mini-caméra dans la chambre à vide du laboratoire. C'est une petite caméra sans fil reliée à un écran LCD fixé à la chambre. Je retourne dans le tunnel où je colle la caméra, que je pointe vers la paroi transparente. L'écran LCD, je l'emporte dans mon lit. Voilà. J'ai installé mon système de surveillance du tunnel. Il n'y a pas d'audio. La caméra est faite pour observer des expériences scientifiques, non pas pour chatter. Mais c'est mieux que rien. Je coince les draps et les couvertures tout autour du matelas ovale et je me glisse à l'intérieur de ma couche. Ainsi, je ne flotterai pas partout lorsque je dormirai. Mes grands plans pour communiquer avec Rocky attendront. Je suis un peu frustré, mais pas pour longtemps. Je sombre presque immédiatement.